Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Député LFI, réélu sous l'étiquette NUPES en juin dernier dans la première circonscription du Nord. Bienvenue dans le studio d'Europe 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron fête, on va dire entre guillemets, le terme fêté, les 100 jours de son deuxième quinquennat. Qu'est-ce que vous retenez, Adrien Quatennens, de ces 100 jours alors que s'achève cette semaine la session parlementaire ?
Bon, sur la ligne politique qui est celle du président de la République, une profonde continuité. Je pense que ça s'est entendu lors des interviews qu'il a données, mais ça se voit aussi dans les textes de loi qui passent à l'Assemblée. On parlera après, je sais, de la question du pouvoir d'achat. Bon, Emmanuel Macron a choisi, ce sont les Français qui paieront. Par contre, mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus, par exemple les grands profiteurs de crise, lui-même les a appelés comme ça, certaines grandes entreprises, ça n'est pas possible, alors que dans certains États européens actuellement, je pense à l'Italie, au Royaume-Uni, c'est fait. Donc c'est une trajectoire qui reste la même. Et puis M. Macron a par ailleurs annoncé la couleur pour la suite, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. C'est une politique de brutalité sociale qui est aussi écologiquement irresponsable. Par exemple, dans le texte sur pouvoir d'achat, on nous ramène par la fenêtre le fait de consommer du gaz de schiste américain liquéfié, qui est un gaz écocidaire. Bon voilà, donc clairement, on n'a pas de changement de trajectoire. Ce qui change en revanche, ça c'est clair, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'ère du Parlement, simple chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République, celle qui prévalait dans le quinquennat précédent, celle-ci est terminée. D'ailleurs, maintenant, on voit bien, il y a des votes qui sont extrêmement serrés, des votes qu'ils peuvent perdre. Par contre, moi, j'observe que Emmanuel Macron est en train petit à petit de réussir à avoir sa majorité de circonstances avec les Républicains, même parfois avec le Rassemblement national. On l'a vu par exemple sur la question de la hausse des salaires, la hausse du SMIC. Mmh. Ça a été un arc qui va de La République En Marche jusqu'au Rassemblement National, faut le dire, y compris à leurs électeurs, ouais, pour empêcher la hausse du SMIC, par exemple.
Vous parliez de l'ambiance à l'Assemblée nationale, une ambiance parfois délétère. Hein.
Franchement, je pense qu'il faut faire extrêmement attention avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Ça fait 3 semaines qu'on entend parler de l'Assemblée nationale, cours de récréation, etc. Je m'arrêtais un instant là-dessus parce que c'est pas supportable. C'est-à-dire que non, en fait, l'Assemblée nationale n'est pas une cour de récréation. Il y a des débats. Parfois, en effet, ils sont vifs, ils peuvent être piquants. Mais enfin, regardez ce qui se passe dans certaines assemblées chez nos voisins européens. Il y a plus de chahut et de bazar, comme j'entends dire, que dans l'Assemblée nationale. Faut faire attention parce que, après, voyez, on s'intéresse davantage à la forme qu'au fond. Et en fait, c'est pas une bonne orientation. Plutôt que de s'intéresser à est-ce qu'il y a trop de décibels à l'Assemblée, faut s'intéresser au contenu des textes. Par exemple, le fait que la semaine dernière, pour ne citer que celui-ci, alors que la majorité présidentielle, qui n'est en fait pas une majorité absolue, vous le savez désormais, a été battue et que nous avons prévu de revaloriser les retraites, il y a eu une nouvelle délibération, tard dans la nuit, qui a annulé cette revalorisation des retraites à hauteur de l'inflation. Je pense que ça, c'est plus intéressant à commenter, voyez, que de savoir si ça parle trop fort à l'Assemblée.
Là où vous avez été battu, vous, c'est sur le projet de faire taxer les super-profits des multinationales, c'est un échec.
Mais clairement, c'est-à-dire que le sujet s'impose dans l'actualité, mais on voit bien que M. Macron, ses députés, avec le concours de la droite, empêchent cette taxation des super-profits. Or, je l'ai dit, certains pays européens le font. Je veux dire, la situation qu'on a sous les yeux, celle d'une hausse des prix de l'ordre de entre 5 et 8%. C'est-à-dire, c'est une fonte des revenus des Français, à la fois de leur salaire, mais aussi des minima sociaux et des gens qui sont dans les situations de pauvreté, d'autant. Et le gouvernement ne fait rien contre cette hausse des prix qui est largement le fait d'une spéculation. Et au même moment où les Français se serrent la ceinture, doivent payer leur plein d'essence, parfois plus de 100 euros à la pompe, eh bien, que voit-on ? On voit des entreprises qui littéralement se gobergent, atteignent des records jamais atteints.
Et vous pensez les entreprises que du CAC 40, par exemple, les entreprises sont pas suffisamment taxées comme
mais
ça.
Mais attendez, d'abord il y a une difficulté aussi dans le raisonnement qui est souvent celui du gouvernement, c'est qu'il faut pas tout confondre. On peut pas parler par exemple des entreprises comme si les entreprises de manière générale étaient la même réalité. Pardon de vous dire que les entreprises du CAC 40, qui pour beaucoup d'entre elles échappent à l'impôt, on a vu par exemple Total. Prenons cet exemple, Total, 17 milliards de bénéfices au premier semestre 2022 et pas d'impôt sur les sociétés payées en France les deux dernières années. Alors qu'à côté, vous avez des PME, des TPE, qu'il ne faut pas confondre avec les grands groupes, qui sont d'ailleurs l'essentiel du tissu entrepreneurial de ce pays, et c'est 25% d'impôt. D'ailleurs, Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, a lancé une mission sur la question de la fiscalité d'entreprise. Ouais. On ne peut pas se cacher cacher les gros derrière les petits. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est valable pour tout. Donc oui, quand vous avez Total qui fait des résultats comme cela, qui ne paye pas d'impôts, oui, il faut une taxation exceptionnelle. Et je pense que ce serait normal dans une situation comme celle-là.
Pour l'instant, c'est non. Est-ce que vous reviendrez à la charge à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances 2023?
Autant de fois que possible. D'abord parce que cette taxe de 25% sur les bénéfices exceptionnels nous permettrait de dégager 10 milliards d'euros. Ce serait plus efficace que les ristournes. J'attire votre attention sur le fait que sur les ristournes, par exemple, ça n'a pas empêché les prix de monter. Donc, il faut mettre en cause, en effet, les super-profits. On ne peut pas avoir une foire aux dividendes et aux super-profits quand la masse des Français à côté galère et doit arbitrer entre des dépenses quotidiennes contraintes.
Autre sujet que vous avez dans votre collimateur, Adrien Quatennens, c'est l'adoption au Sénat de la monétisation des RTT. La possibilité pour les salariés de revendre leurs jours de RTT qui ne sont non pris. Pourquoi vous êtes contre une mesure qui va permettre finalement aux salariés de gagner plus, quoi?
Mais
plus de pouvoir d'achat.
Parce que moi je suis d'accord pour qu'on gagne plus, mais il n'est pas nécessaire de travailler plus pour gagner plus, contrairement à l'adage. Non, la vérité c'est que les salariés de ce pays produisent déjà bien assez de richesses, et que ce que nous voyons dans le débat actuel, c'est que tout est fait sur la question du pouvoir d'achat pour éviter la question centrale, qui est celle de la revalorisation des salaires. Les gens qui bossent aujourd'hui, une grande masse de celles et ceux qui travaillent, notamment les bas salaires, ne vit pas correctement. Vous savez, vous, qu'au SMIC, on ne vit pas. On ne vit pas, on survit. Et donc, quand nous disons qu'il faut augmenter le SMIC, une grande majorité des Français sont d'accord, et vous avez cette alliance baroque, je l'ai dit, et il faut que les Français l'entendent, y compris celles et ceux qui pensent que parfois le Rassemblement national sert les intérêts populaires. Ces gens-là ont mêlé leur voix à M. Macron et ses députés pour empêcher la hausse du SMIC, pour empêcher le gel des loyers par exemple. Les gens ne demandent pas des primes aléatoires au bon vouloir du patron, qui concernent très peu de salariés, dans des montants qui sont de l'ordre de la loterie.
Il y a aussi des gens qui veulent tout simplement
des augmentations
gagner plus,
de salaire. Et précisément, vous voyez, là encore, il ne faut pas confondre les petites entreprises et les grosses sociétés. Parce qu'on doit pouvoir imaginer des mécanismes de solidarité qui feraient que les grosses sociétés viendraient aider les plus petites pour l'augmentation des salaires. Pardon de vous dire, et je m'arrêterai là-dessus, mais sur les salaires, comment se fait-il qu'il est impossible de parler de l'augmentation des bas salaires, ceux des classes moyennes et populaires, et que dans le même temps, personne ne s'offusque du fait, reparlons-en, qu'au CAC 40, la rémunération moyenne des patrons du CAC 40, en 2 ans, elle a augmenté de 90% pour atteindre une moyenne de 8,7 millions d'euros. Si vous voulez, le moment auquel nous assistons, c'est une sécession entre d'un côté les très riches et de l'autre côté la masse de la population à qui on demande des efforts et de payer l'inflation.
Est-ce que vous maintenez, Adrien Quatennens, votre signature à la proposition de résolution qualifiant Israël de régime d'apartheid à l'égard des Palestiniens?
Je vais vous dire franchement, cette résolution est une résolution d'initiative de nos camarades communistes.
Du Parti communiste. Ouais.
Moi, je vais vous dire, j'ai retiré ma signature simplement pour ne pas prêter le flanc à une polémique. Je ne suis pas signataire de ce texte, mais certains de mes collègues le sont.
Faites partie de ceux qui ont signé mais vous l'avez retiré.
Précisément pour une raison, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que j'ai bien vu l'instrumentalisation, la petite politique aérie qui était faite sur le dos de la lutte contre l'antisémitisme, notamment par les membres du gouvernement. Je vais vous dire une chose très claire sur le sujet. Le comportement qu'ont eu hier dans l'hémicycle Elisabeth Borne, première ministre, et Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, n'est pas du tout à la hauteur de ministres. Voilà. Ils ont fait de l'instrumentalisation.
Vous comprenez quand même que les termes de cette résolution peuvent choquer quand les termes parlent de régime d'oppression, domination par un seul groupe racial.
Écoutez-moi.
Les Juifs d'Israël sont une race.
Non, écoutez-moi. D'abord, dire une chose, l'antisémitisme est un poison, pas une opinion, mais un délit.
Certes.
L'antisémitisme, c'est du racisme, et donc les antisémites doivent être traduits devant la justice.
D'accord.
Et donc il n'est pas tolérable qu'un gouvernement instrumentalise une résolution politique qui critique la politique d'un gouvernement
qui fait plus que ça, Adrien Quatennens.
Alors, là-dessus, si vous voulez dire que des organisations non gouvernementales israéliennes qui utilisent le terme d'apartheid à l'égard de la politique qui est menée, on peut le critiquer aussi, mais si vous voulez dire que toutes celles et ceux qui critiquent la politique d'un gouvernement, ou même Amnesty International qui a fait un rapport très documenté, sont des antisémites, alors très franchement je crois qu'on affaiblit la lutte contre l'antisémitisme. On doit pouvoir critiquer la politique d'un gouvernement. Vous savez, moi je vais vous dire, dans ce sujet très sensible du conflit israélo-palestinien, nous défendons la solution à deux États. Celle des frontières d'avant 1967, qui serait une solution pour la paix, celle du droit international. Voilà. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a un système d'oppression, de domination, voir qu'il y a certaines lois qui ont été citées, par exemple la loi de 2018 qui fait qu'il y a une inégalité de droit entre Israéliens juifs et non-juifs. Et tout ça, on doit pouvoir le dire sans être suspecté d'antisémitisme, parce que l'antisémitisme est un racisme et que c'est inacceptable. Et qu'il n'y a personne dans les rangs de la France insoumise ni dans tous les rangs de la NUPES qui peut être d'aucune manière suspecté d'antisémitisme. Et cela doit être dit. Et le fait qu'un ministre ou la première ministre le laisse entendre est absolument inacceptable et même dangereux.
Merci pour votre réponse, en tout cas Adrien Quatennens, député NUPES de la première circonscription du Nord. Merci d'avoir répondu.
Merci de m'avoir invité.
Bonne journée.